Jeudi dernier, j'étais de temps en temps en train de regarder des moments des cérémonies qui avaient eu lieu en France pour marquer les 80 ans depuis le jour J, le débarquement des Alliés en Normandie. Et d'autant plus que donc mon grand-père aussi a participé au débarquement et ont débarqué en Normandie 4 jours après le jour J, puis donc avoir participé à la bataille de Normandie, puis avoir traversé la Belgique, les Pays-Bas, pour terminer la guerre donc, dans l'armée d'occupation de Hambourg. Et donc, une fois à Hambourg, il a réussi à se faire transférer dans le bureau de l'aumônerie, où, semble-t-il, il a été particulièrement marqué par tout le travail qu'eux, ils ont effectué dans l'accueil des Juifs qui revenaient dans la ville après leur libération des camps de concentration. Mais je comprends que souvent, donc, dans la grande région et dans toute région frontalière, ces histoires sont souvent beaucoup plus compliquées. J'ai découvert cela quand on était en Lorraine et que un monsieur dans l'église m'a partagé que son grand-père était décédé pendant la Première Guerre mondiale. Et donc on discutait et je lui demandais comment cela s'était passé. Et donc il m'a partagé que son grand-père était mort lorsque son bateau avait été coulé par la Royal Navy. Donc j'ai vite passé à autre chose. Mais bon, en ce qui concerne aussi le Luxembourg, il y avait un moment que j'ai trouvé très amusant. Jeudi matin, pendant les cérémonies sur le jour J, puisque donc il y avait le présentateur de France Télévisions qui disait que ces grandes cérémonies avaient commencé en 84 pour les 40 ans, et que donc il y avait eu présente la reine Elisabeth d'Angleterre, qu'il disait était donc seul chef d'État à avoir participé donc aux forces armées. Et puis il s'est fait vite interrompre par Stéphane Bern, qui a dit tout de suite « Ah ben non, ils étaient deux. Il y avait la reine Elisabeth, mais il y avait également le grand-duc Jean du Luxembourg, qui lui a débarqué aussi en Normandie et a fait aussi la guerre. » Mais donc tout au long de la semaine, les journalistes, les historiens ont parlé de l'importance de telles commémorations, en soulignant que c'est d'autant plus important que les personnes qui aient vécu ces choses ne soient plus là. Ils disent que ces commémorations sont importantes pour nous rappeler ce qui s'est passé et surtout pour qu'on se rende compte du prix qui a été payé pour notre liberté. Et en réfléchissant à ce qu'ils étaient en train de dire, je me suis dit, finalement, ça reflète également ce que nous venons de faire en prenant la Sainte Cène. C'est une commémoration importante pour nous rappeler ce qui s'est passé, pour nous rappeler le prix qui a été payé pour notre liberté. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 25 et 26, le passage qui parle de la Sainte Cène, l'apôtre Paul dit « Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Faites ceci toutes les fois. Rappelez-vous ce que j'ai fait toutes les fois que vous faites ceci. » C'est important pour nous de commémorer souvent ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. De la même manière qu'il est important de se rappeler ce que d'autres générations ont fait pour nous, pour ne jamais oublier sur quoi est basé notre salut. Et c'est facile de le faire. C'est facile de penser que ben, c'est parce qu'on vit en Europe qu'on est sauvé. Ou c'est parce que le Seigneur nous trouve tellement bon qu'on est sauvé. Ou c'est parce qu'on est tellement intelligent qu'on est sauvé. Important de se rappeler les réalités de ce qui s'est passé lorsque Jésus est mort pour nous et de se rappeler le prix qu'il a fallu payer pour que nous soyons libres, pour que nous soyons sauvés. Parce que la Bible nous dit donc que Jésus a sacrifié son sang pour nous, pour notre liberté. On va lire ce matin dans Hébreux chapitre 9, les versets 11 à 28. Hébreux chapitre 9, versets 11 à 28. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. Ça marcherait sans Dieu si je mettais la clé dedans. C'est ce que je veux. C'est pour ça qu'en général, je ne le retire pas après le samedi soir. Reprenons donc dans Hébreux 9, verset 11. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que cela. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Ce verset 27 que nous venons de lire nous révèle pourquoi nous avions besoin que quelqu'un soit prêt à se sacrifier pour nous libérer. Verset 27 nous dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Dieu donc a mis en place le plan du salut. Dieu a pris l'initiative d'intervenir dans l'histoire de l'humanité parce que lui ne voulait pas qu'on soit face à un tel avenir. Face à ces paroles de condamnation, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi le jugement. La Bible nous révèle que depuis que le péché est entré dans le monde, est entré dans l'être humain, nous nous trouvons tous dans une sorte de cercle vicieux d'où il n'y a aucune sortie, aucun moyen d'échapper. La Bible nous dit que depuis que le péché est entré dans le monde, l'être humain est devenu mortel. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. On est devenu mortel. Le péché qui est entré a apporté la condamnation que Dieu avait annoncée serait inévitable. Si vous péchez, si vous vous révoltez contre moi, le résultat, vous allez mourir. Et c'est ce qui s'est passé. Et à partir de ce moment-là, c'est comme si notre ADN a été affecté, altéré par le péché qui est entré en nous. On est devenu mortel, mais en plus, ce qui fait que ce soit une espèce de cercle vicieux, une situation qui s'empire de plus en plus, c'est que le péché nous rend mortels. Mais ce même péché qui nous rend mortels fait qu'après cette mort, il y aura le jugement. Et puisqu'on est pécheur, le seul résultat possible de ce jugement, c'est la condamnation éternelle et donc la mort éternelle. Romains 6, verset 23 nous dit « Le salaire du péché, c'est la mort. » On est donc devenu mortel. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. 1 Corinthiens 15, 22 nous dit « Tous meurent en Adam ». Donc, à partir du moment où on est descendant d'Adam, à partir du moment où on appartient à la race humaine, il est réservé une seule fois de mourir, car le salaire du péché, c'est la mort. Et Romains 3, 23 nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché parce que c'est entré en nous. C'est dans notre nature héritée depuis Adam. C'est dans la nature humaine d'être pécheur. On n'y peut rien. Ça fait partie de qui nous sommes. Mais parce que nous sommes pécheurs, nous sommes mortels. Et donc, il nous est réservé de mourir une seule fois. Et parce qu'on est mortel et il nous est réservé de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, on est forcément condamné d'avance parce qu'on est pécheur. C'est donc qu'on est pris dans ce piège, on est un peu comme les petits rongeurs qui courent toujours dans leur roue sans jamais aller nulle part, sans jamais sortir ni jamais changer de situation. Nous nous trouvons là-dedans à cause du péché. Le péché nous garde donc prisonniers. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes des esclaves du péché. Parce que nous avons pris cette nature en nous à partir du péché d'Adam. Nous sommes nés pécheurs. Donc nous sommes mortels. Donc nous mourrons suite à quoi vient le jugement. Et forcément, puisqu'on est pécheur, on est condamné même dans ce jugement qui est inévitable. D'où la Bible peut parler de l'ennemi qui retient l'être humain esclave dans cette crainte de la mort, puisque nous savons que puisque on est mortel, c'est le signe qu'on est pécheur, et puisqu'on est pécheur, ben le jugement qui suit la mort va être négatif. Nous sommes retenus, prisonniers, et on serait prêt à tout pour s'en débarrasser, pour sortir de cette roue infernale de mortalité et de jugement. La preuve que l'être humain cherche par tous les moyens de s'en sortir, c'est toutes les religions. Le fait que l'homme ait créé tellement de religions dans l'espoir de trouver un moyen de sortir de cette situation. Et même dans nos sociétés occidentales, où souvent donc l'être humain se considère maintenant plus avancé, trop intelligent pour chercher des solutions dans la religion, finalement même la plupart de nos avancées médicales et scientifiques ne sont que des moyens pour essayer d'échapper à ce destin qu'on voit devant nous. D'essayer de sortir de cette mortalité qui est le résultat du péché. Dieu sait très bien que tel est le désir de notre cœur, que tout en nous cherche à échapper à ce destin. C'est pour ça que dans Jean chapitre 8, les versets 31 à 36, Jésus s'adresse directement à cette espérance qui se trouve au fond de nous. Jean 8, verset 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, mais nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché. Peu importe la race, peu importe la religion, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jésus donc annonce « Je suis venu pour répondre à ce désir de liberté. » Eux, ils croyaient l'avoir puisqu'ils étaient disciples de Moïse. Jésus dit « Mais tant que vous n'ayez pas réglé votre problème du péché, vous restez esclaves du péché, vous restez prisonniers de ce système dans lequel vous êtes nés et qui est inévitable. » Car le salaire du péché, c'est la mort. Tous ont péché, donc tous meurent en Adam. Après quoi vient le jugement? Alors justement, cette semaine, lorsque les historiens, les journalistes discutaient les événements de 1944-45, plusieurs ont souligné le fait que la liberté a toujours un prix. Et oui, d'accord, depuis maintenant 80 ans, nous vivons plus ou moins libres, mais il ne faut jamais oublier, et c'est pour ça qu'il disait que c'était important de commémorer ces événements, cette liberté a toujours un prix qui, le plus souvent, doit être payé par quelqu'un d'autre. Eux, ils ont dit, ces gens sont venus payer le prix, et c'est grâce au fait qu'eux, ils étaient prêts à faire cela que nous, en Europe, nous vivons libres. D'ailleurs, même dans une des cérémonies, je crois que c'était le président français qui remerciait les vétérans américains à ce moment-là d'avoir fait l'effort de venir en leur disant c'est puisque vous avez fait ce choix de venir que nous sommes libres. C'est puisque leurs camarades étaient prêts à mourir que nous sommes libres et que depuis la génération même de nos parents, nous vivons dans cette liberté. Notre liberté politique a été payée par cette génération précédente. Notre liberté du péché, c'est aujourd'hui nous croyons être libres de cet esclavage du péché, de ne plus être retenu prisonnier par le péché, cette liberté également a été payée par quelqu'un d'autre. Et si je suis libre, c'est uniquement parce que, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, Jésus-Christ a accepté, lui, de venir et lui, de payer le prix. Et c'est grâce à son sacrifice que nous sommes libres. Mais sans vouloir en aucune mesure manquer de respect à ceux qui avaient fait ce choix il y a 80 ans de ne se sacrifier, ce sacrifice de Jésus prend une toute autre dimension. 80 années de liberté relative dans une région du monde n'est pas la même chose que la libération que Jésus-Christ a effectuée par son sacrifice, qui était un sacrifice unique, mais de résultat universel, qui ouvre la possibilité de la liberté à toute génération dans tous les pays du monde. Hébreux chapitre 9, verset 25. Ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour un autre sang, pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Il a fallu d'innombrables guerres et tant de sacrifices pour que même une région connaisse la liberté. Christ est venu une seule fois et par ce sacrifice-là, le sacrifice de son propre sang, il nous rend libres, nous aussi, aujourd'hui. Mais non seulement nous, mais aussi tous nos frères et sœurs de par le monde. Et non seulement tous les chrétiens de notre génération, mais également tous les chrétiens de toutes les générations, de toute l'histoire. Hébreux 5, verset 9, nous dit que Jésus-Christ est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Cette année, on fêtait donc plus ou moins 80 années de paix et de liberté sur le continent européen. Mais personne ne connaît l'avenir. Personne ne sait si on fêtera le centenaire de cela, ou les 200 ans. Il y a eu tellement dans l'histoire de moments où les gens ont cru, bon là on a mené ce combat et c'est bon. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ est devenu l'auteur d'un salut éternel. Qui veut dire que donc, on sort complètement de cet esclavage, de ce trou infernal de mortalité et de jugement, de condamnation à suivre. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire, mourir me fait pas peur, bien au contraire, parce que je sais que je vais me trouver auprès du Seigneur Jésus. Et en plus, puisqu'il est auteur d'un salut éternel, je sais que le jour où Dieu décide que c'est la fin de l'histoire et qu'il va ressusciter les morts, je trouverai un corps ressuscité. Puisque Christ s'est sacrifié pour moi et je suis donc devenu bénéficiaire d'un salut qui est éternel. J'ai cette paix et cette liberté éternelle achetée au prix du sacrifice de Jésus. Mais vous remarquerez qu'il y a donc juste un élément très important dans ce dernier verset, Hébreux 5, verset 9. Donc l'auteur dit que Jésus-Christ est devenu l'auteur d'un salut éternel, mais il ajoute la petite phrase « pour », il ne dit pas « pour tout le monde », dans l'absolu, s'il le veuille ou pas, il est devenu l'auteur d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Si tel est le cas, si cette liberté que Christ est venu acheter au prix de son propre sang est disponible pour tous ceux qui lui obéissent, la question essentielle devient donc, que faut-il faire pour lui obéir? Jésus nous donne la réponse à cette question en Jean chapitre 6, versets 28 et 29. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Donc, que devons-nous faire pour obéir? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc, lorsque l'auteur aux Hébreux dit « Pour tous ceux qui lui obéissent, il est devenu l'auteur d'un salut éternel », c'est une autre manière de dire « Pour tous ceux qui croient en celui que Dieu a envoyé, il est devenu l'auteur d'un salut éternel ». Pour cela que dans Jean 3, verset 36, Jésus dit également, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Puisque celui qui croit au Fils, il obéit à l'œuvre de Dieu. Et pour tous ceux qui lui obéissent, il est devenu l'auteur d'un salut éternel. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils, ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui, puisqu'il est toujours dans cette roue infernale de mortalité, de jugement, qui est le résultat d'être pécheur, dont nous le sommes tous, car tous ont péché. Tous donc meurent en Adam. Car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 5, versets 1 et 2 nous dit également, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. » Pour cela qu'il y ait cette question, toutes les fois que vous faites ceci, faites-le en mémoire de moi. Rappelez-vous ce que j'ai fait. Nous devons à Jésus-Christ d'avoir eu par la foi accès à la grâce de Dieu dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Inversement donc, inversement total de la situation, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais si nous croyons en lui, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. que donc cette condamnation est inversée. Au lieu de jugement et de condamnation qui nous prive de la gloire de Dieu à cause de notre péché, Christ, par son sacrifice, efface le péché et donc nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu, mais uniquement grâce à ce que lui, il a fait pour nous. Croire en lui donc, c'est croire que le sacrifice que Jésus a accompli il y a si longtemps dans l'histoire, à l'autre bout du monde, couvre mon péché aujourd'hui et éternellement. Que comme je vis dans l'héritage de la libération, de cette liberté qui a été payée par ces hommes il y a 80 ans, je suis aujourd'hui libéré, je vis dans la liberté qui vient du fait qu'il y a 2000 ans, Jésus s'est sacrifié pour moi. Que Jésus soit venu sur la terre, que Jésus se soit sacrifié sur la croix, portant mon péché, péché qui est effacé par son sang. 1 Jean chapitre 1 verset 7 nous dit « Le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. » Pour cela que nous sommes libres, pour cela que Jésus pouvait dire « Celui que le Fils a franchi est réellement libre. » Totalement libre, car le sang de Christ, de Jésus son Fils, nous purifie de tout péché. Il n'y a donc plus rien qui nous retient, plus rien contre nous. Alors la Bible décrit ce sacrifice de Jésus comme la plus grande preuve d'amour imaginable. Romains chapitre 5, verset 6, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et 1 Jean chapitre 4, versets 9 et 10, nous dit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » C'est la manifestation, des gens, de l'amour de Dieu pour nous. Il était prêt à se sacrifier. Il était prêt à quitter son ciel, à quitter la gloire du ciel pour venir habiter sur la terre. Il était prêt à se laisser, comme on l'a entendu tout à l'heure, trahir par un proche. Être jugé par les gens autour de lui qui n'étaient que ses propres créatures. Qu'il était prêt à mourir sur la croix pour régler une fois pour toutes le problème du péché et ses résultats pour tous ceux qui lui obéissent, pour tous ceux qui croient en lui. Donc grâce à l'amour de Dieu pour nous qui voulait qu'on soit libre, grâce au sacrifice de Jésus, aujourd'hui nous pouvons vivre libre sans aucun doute quant à ce statut de liberté que nous avons devant Dieu en Jésus-Christ, aujourd'hui et pour l'éternité. 1 Jean 5, verset 13, l'apôtre Jean nous dit, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Important de se rappeler, de commémorer ce que Jésus-Christ a fait pour nous, pour que les jours où notre ennemi, l'accusateur des frères, ou une conscience trop aiguisée et déformée, vienne nous reprocher des choses, viennent nous craindre être coupés de l'amour de Dieu ou être indignes de recevoir ce don de la part de Dieu. Important de se rappeler, il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Car je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyait au nom du Fils de Dieu. Important de commémorer ce que Jésus-Christ a fait pour nous, pour se rappeler, tout mon péché est effacé. J'ai cette espérance maintenant de la gloire de Dieu. Je ne suis plus retenu prisonnier par le péché. Donc, la mort et le jugement ne sont plus des sources de crainte et de peur pour moi. Parce que je sais que Jésus-Christ s'est sacrifié pour me libérer entièrement de ces choses-là. Mais en même temps, important de commémorer ces choses pour se rappeler, ce n'est pas à cause de moi. Ce n'est pas puisque je suis devenu parfait que je suis libre. Ma libération n'est pas le résultat de quoi que ce soit en moi d'ailleurs. Ma libération est due au fait que Jésus-Christ est venu sur la terre et qu'il est mort pour moi. Qu'il a payé ce prix ultime. Qu'il a donné sa vie pour moi. Il a donné son corps sur la croix. Il a versé son sang sur la croix, mais grâce à cela, je suis maintenant réellement libre. Important donc de se rappeler de ce que Jésus a fait pour nous. Si on se rappelle de ce que Jésus-Christ a fait pour nous, cela nous gardera dans l'essentiel de ce que Dieu dire pour nous, ça nous gardera près de Dieu, ça nous gardera dans la vérité. Et comme disait Jésus-Christ lui-même, la vérité vous affranchira. Donc que nous puissions nous réjouir encore aujourd'hui, reconnaissant au Seigneur pour la liberté dont nous jouissons et dont nous jouirons pour l'éternité, payée par le sang de Jésus.